Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez désormais, Good Luxe, c'est tous les jours de la semaine. Je vous retrouve en direct entre 13h et 15h sur BFM Business. Et le week-end, je retrouve enfin mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ce week-end, justement, honneur à vous, messieurs. Jusqu'à dimanche soir, se tient au Carrousel du Louvre, se tiennent même au Carrousel du Louvre, deux salons, le Salon de l'Homme et le Salon Belle Montre, de quoi découvrir le meilleur de l'univers masculin, comme par exemple les costumes du tailleur Sifonelli, les montres sur mesure d'une nouvelle marque Brugler ou encore les putters de golf Valgrind. Mais pour l'heure, ce sont les nouveautés de la semaine dans Good Luxe.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et on commence traditionnellement ces nouveautés de la semaine, Emmanuel, avec la table de la semaine.
La table de la semaine, le Botanique, 71 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e arrondissement. Alors on le sait, il y a 15 jours déjà, ce quartier, il a payé un lourd tribut. Peut-être parce que c'est un quartier, justement, qui témoigne d'un Paris ouvert, d'un Paris dans l'énergie. Cette énergie, elle passe aussi par la culture du restaurant. Ce restaurant, le Botanique, il y a quelques semaines, il est tout nouveau, hein. Mais j'ai dû démolir un petit peu, du moins les gratiniers, dans vos fameux goûts de luxe quotidien. J'y reviens parce que, en fait, quand je l'ai gratiné il y a 3 semaines, c'est que rien n'était prêt. C'est une adresse qui avait été très claironnée, et puis ils avaient ouvert un peu en précipitation, mais une adresse c'est vivant, un restaurant c'est vivant, et 3 semaines après, tout est beaucoup mieux réglé. D'abord parce qu'il y a...
Vous leur avez laissé une deuxième chance, vous
y êtes
retourné.
Il faut toujours laisser une deuxième chance, là, ils ont été un petit peu précédés de leur réputation, et la réputation au tout début n'était pas à la hauteur, mais tout se règle posément. D'abord parce qu'il y a une ancienne maison particulière, comme il en existe quelques-unes dans ce quartier-là, on a le sentiment de pénétrer un atelier d'artiste, de se retrouver un petit peu dans un intérieur parisien, sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, on est dans un bar à vin qui travaille le tapastronomique, c'est-à-dire la version un peu gastronomique du tapas. Et puis à l'étage, le restaurant gastronomique avec, on commence à connaître le refrain, mais quand il est bien sifflé, on va pas se plaindre, un chef japonais qui retravaille un peu la cuisine française. Cuisine très dans les purs, très dans le beau produit, très dans le sourcing, très dans la cuisson juste. Un joli travail sur la volaille, notamment avec un pigeon luthé, truffe, girole, également quelques jolies canettes. Et puis un plat qui les raconte un peu, c'est vrai, c'est une cuisine assez féminine, assez picturale. Un maquereau poché avec une senteur de vionnier. Le vionnier, c'est un raisin, un cépage. Alors, on n'est pas dans une sauce au vin, on est plus dans une sauce fruitée au raisin que va encore, j'allais dire, cramoisir une fameuse jolie d'hibiscus. L'hibiscus, vous savez, c'est cette fleur.
Très rouge,
assez parfumée. Il y a un joli travail sur les harmoniques dans ce restaurant-là. On lui a laissé le temps, ça lui va bien. Ça s'appelle Botanique parce qu'on est très dans le floral, très dans le potager. Belle adresse, très parisienne. Et puis, histoire encore une fois d'aller coller, de recoller dans ce quartier du 10e, 11e arrondissement de Paris où c'est aussi là que ça se passe. Ben voilà, on va en parler à nouveau pour les meilleures raisons.
71 rue de la Folie-Méricourt pour Botanique. Et ça n'en finit pas de bouger dans l'hôtellerie parisienne. Il faut y aller. Là aussi, c'est plus compliqué d'aller à l'hôtel pour nuit. Mais autant vous dire qu'il y a vraiment des belles choses. L'hôtel de Serres, ça fait un moment qu'il existe.
Hein. Ah oui.
Il existe depuis 2004, en fait, rue Pierre 1er de Serbie, pardon, dans le 8e arrondissement de Paris. Sauf que voilà... Le fait est que dorénavant, au bout de 10 ans, un hôtel, il est déjà fatigué. Donc, il vient de se rénover. Il vient de se restaurer avec toujours l'architecte Thomas Vidalinck. On retrouve toujours le même esprit de ce baby palace 5 étoiles, 45 chambres, cette suite. Mais avec des couleurs peut-être plus dans l'air du temps. On est dans du doré, on est dans du brun, on est dans du bleu. Et alors, il y a un appartement panoramique de 80 mètres carrés avec terrasse, parce qu'évidemment, on est super bien placé près de la Tour Eiffel. Ça, c'est pour l'hôtel de Serres. Et je voulais vous parler aussi d'un des petits nouveaux. Il y en a toujours. Hôtel Le Parisis. Là, on est boulevard de Grenelle, dans le 15e. Il donne aussi du côté de la Tour Eiffel. 45 chambres, dont les 2/3 donnent sur la Tour Eiffel, quand même. Donc, ce n'est pas volé. L'architecte d'intérieur, c'est Pascal Douillard. Il y a un petit patio avec un mur végétal qui sort de l'ordinaire. Parce qu'en fait, on est vraiment sur une structure Eiffel. Donc, il y a tout l'hommage au métro aérien à l'intérieur. Et puis, il y a un superbe objet. C'est un fauteuil balançoire, assez étonnant, qui vous accueille comme ça lorsque vous rentrez. Et là, on est plutôt dans du 4 étoiles. Ça s'appelle Le Parisis, tout simplement.
C'est pas fini, il y en a encore plein qui arrivent.
Ah bah, évidemment, on a une liste longue comme le bras de tous ces hôtels qu'il faut aller aussi tester et visiter dans la capitale. Mais pour l'heure, c'est Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Et Et pour Web de Luxe, nous retrouvons Sandy Conrad. Bonjour Sandy. Que s'est-il passé sur la toile?
Pas mal de choses encore. Tout d'abord, le site Hermès Istible, comme son nom l'indique, c'est un lieu où on découvre des mots un petit peu originaux, un petit peu loufoques. C'est comme un dictionnaire où l'imaginaire rejoint la vie, j'ai envie de dire. C'est le site Hermès. C'est Hermès qui a lancé ce nouvel espace digital. Alors, pourquoi ce mot? Parce qu'en fait, ils vont proposer ils proposent de montrer les nouvelles collections de bracelets, de colliers, enfin tout l'accessoire bijoux de chez Hermès. Et en fait, à chaque présentation de bijoux, ils vont associer un mot rigolo comme celui-ci. Alors, il y a impulsif par exemple, non féminin, laisser aller passager à un plaisir légèrement coupable. Et là, on voit une main qui vient piquer la frite de l'autre. Voilà, ils inventent de nouveaux mots pour promouvoir un petit peu leurs bijoux. Et on voit cette main qui pique les frites. Évidemment, on découvre le bracelet Kelly chez Hermès. C'est plutôt bien fait.
Et voilà, il y a apparaisse aussi. Ça, mais ça, c'est pas pour nous. Vous
aussi.
N'êtes pas paresseuse, loin de là.
C'est de la paresse. C'est de quoi la paresse?
Hermès.com.
Hermès sous la coupole, quoi.
Hermès-Istible. Et puis, un mot pour ces messieurs, puisque ça va être le thème aussi de l'émission, les raffineurs.
Lesraffineurs.com, en fait, c'est un site qui leur est entièrement dédié. On va trouver de bonnes idées cadeaux ou alors de quoi se faire plaisir, comme il y a Noël qui arrive, pourquoi pas. Alors, on trouve des chemises, des costumes sur mesure, des bouteilles d'alcool, de gin, des ouvre-bouteilles en bois. Il y a pas mal de choses. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est cet onglet qui s'appelle Expérience. Alors, on peut trouver stage d'apiculture urbaine, créer sa propre bière. Il y a quoi d'autre? Atelier menuiserie pour ces messieurs. Voilà, il y a pas mal d'idées un petit peu changeantes, un petit peu loufoques. Ça fait
et
du
voilà
bien.
Encore des idées de cadeaux avant Noël. Et puis, Biblib.
Biblib, une marque française. Ce sont en fait des housses qu'on met par-dessus les valises trolley, donc entre 60 et 80 cm. Au-delà de décorer votre valise, eh bien, ça la protège éventuellement des éventuelles rayures, ça évite qu'on puisse voler ou mettre des choses dedans. Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'on a un système de QR code, un système de lost and found. Donc, si on perd sa valise, eh bien, on va, je vous vois regarder derrière, si on la voit. Vous voyez, il y a un système de QR code et en fait, on retrouve très facilement ses effets personnels au besoin.
Et voilà, je ne sais pas si on les retrouve, mais on sait où ils sont localisés.
On sait où ils sont localisés. On se met, en plus, il y a un système de mise en relation avec les services de l'aéroport, ce qui est plutôt bien fait, si ça marche.
Eh oui, et la sécurité, c'est la grande question en ce moment. Donc voilà, comme ça, on retrouve tout ça. Mais merci à vous, Sandy Prenant.
Merci
à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bons plans du web. Merci beaucoup. Allez, Emmanuel, on continue avec...
Un événement, le cabinet de curiosité de Thomas Herbert. Ça a été créé il y a 6 ans. On avait reçu d'ailleurs à l'occasion ce Thomas Herbert dans cette émission. Et le cabinet de curiosité, eh bien, Thomas Herbert, c'est un drôle de personnage. Ancien journaliste qui a fait plus de 500 portraits, reportages dans toute la presse dédiée et qui s'est réinventé il y a 5 ans pour sa passion du luxe. C'est une manière de curateur, mais pas un curateur dédié au monde de l'art, de musée. Non, lui, il a décidé de travailler... Non pas pour élever les marques de luxe au rang des beaux-arts, mais pour montrer et prouver qu'aujourd'hui, la jeune scène créative est aussi une énergie. Et donc, depuis 6 ans, à travers le monde, à Londres, à New York, à Bangkok, il réunit comme cela des marques, mais aussi des créateurs, des directeurs artistiques, des designers, pour l'instant d'une exposition, une exposition en vente, dans des lieux toujours très choisis, présenter une manière d'éloge de l'objet avec des pièces particulières, des pièces inédites, des pièces collector, des pièces uniques. Alors, après avoir fait le tour du monde depuis 6 ans, le voici de retour depuis cette semaine dans 3 lieux parisiens. Colette, bien évidemment, on ne présente plus, rue Saint-Honoré, mais également l'hôtel Les Bains du côté de la rue du Bourg-Tibourg, ça c'est du côté du 4e dans le Marais, et puis aussi la galerie Molière dans le Palais Royal. Dans ces 3 lieux vont être exposées plusieurs pièces, alors soit travaillées par des maisons qu'on connaît, comme la maison Kitsune, comme l'officine générale, par l'architecte et décorateur François Champchaur. Il y a au total, je crois, une trentaine, peut-être un peu plus, d'objets qu'on va découvrir cette semaine et dans les semaines qui viennent. En ligne de mire de Noël, le calendrier de l'Avent va bientôt commencer. Non seulement c'est encore une fois une manière de plaidoyer pour la série limitée, pour la pièce unique, pour la pièce collector, et puis pour montrer que derrière ces maisons de luxe, il y a une véritable savoir-faire, une véritable création. Moi, je trouve que c'est un personnage sincère et les lieux qui l'accompagnent et les expositions et ce fameux cabinet de curiosité est un joli moment.
Voilà le cabinet de curiosité de Thomas Herbert de retour à Paris. Alors, on va beaucoup parler pour d'hommes cette semaine dans Google Luxe Paris. Et justement, un petit pop-up store pour vous, messieurs. Ça s'appelle La Garçonnière, c'est tout simple. Hein. C'est dit. Et donc, c'est jusqu'au 15 janvier, 40 rue des Petits Carreaux, dans le 2e arrondissement de Paris. Et on y retrouve sans doute aussi des objets et des marques que l'on va retrouver au Salon de l'Homme, dont on reparlera dans un instant. Mais tous les accessoires du vestiaire masculin, ne pas maroquinerie, chaussures, chemises, montres, chapeaux, 30 marques de créateurs. Là aussi, Apto, Monsieur London, Charlie Watch, Resinwood, De Rigueur, Bobby's, vous en connaissez sûrement quelques-unes, mais pas toutes. Et il y a aussi, Sandy Pronoy nous parlait tout à l'heure d'expérience, des cours d'œnologie, des cours de cuisine, des ateliers de cocktail, bref, tout ce que vous aimez, messieurs. Je voudrais terminer, quand même, on n'a plus beaucoup de temps, avec l'objet du jour. Je ne voulais pas amener parce qu'il est encore à l'état de prototype. Et oui, il est en ce moment en vente grâce au crowdfunding, mais c'est un objet assez extraordinaire. Et là aussi, ça va vous plaire, messieurs. Auré qui lance le stylographe, un instrument d'écriture dépassant l'ère numérique. C'est disponible en précommande sur Kickstarter. Comment ça marche? C'est un très beau stylo, voire stylet, assez ergonomique en cuivre. Donc déjà, l'objet en lui-même est très beau. Et l'intérêt, c'est que vous écrivez sur un papier spécial ce que vous souhaitez. Vous faites un petit croquis. Tout ça est enregistré.
Dans le stylet?
À l'intérieur du stylet. Et ça marche à pile. C'est enregistré et ça peut être transmis sur votre smartphone ou immédiatement par Bluetooth ou un petit peu plus tard. Et donc, tout ce que vous prenez en note, il faut, bien sûr, c'est vendu avec un petit carnet à spirale spécial, un papier spécifique, mais tout ce que vous prenez en note, eh bien, pourra être récupéré sur votre smartphone.
C'est le plaisir d'écrire sur le papier en
voilà.
Même temps de pouvoir...
Vous qui utilisez encore beaucoup l'écriture manuscrite,
Emmanuel. Moi, j'ai un stylo normal, du papier normal, mais bon, je teste pas.
Et tout ça, c'est très beau parce que Auré fait aussi dans l'esthétique. Donc, le carnet à spirale, il est en cuir. Le stylet, il est en cuivre. Il y a bien sûr l'appli gratuite. L'autonomie, c'est 48 heures. Je vous passe les détails techniques. C'est conception artisanale dans le sud de la France, ça c'est important. C'est pour l'instant à 410 €, donc je vous le disais, sur Kickstarter. Ça s'appelle le stylographe de la maison Auré. Voilà, on en reparlera, on testera et on vous dira si ça marche.
Les bains, c'est rue du Bourg-l'Abbé, par rue du Bourg-Tibourg. J'ai pas d'oreillettes, mais merci. Je connais ma géographie parisienne.
Bon, on retrouvera tout ça sur le site internet, en tout cas, de BFM Business et Good Luxe Paris. Allez, pour vous les hommes, on y va dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Accessoires, horlogerie, sport, belle mécanique et j'en oublie à l'honneur l'homme aujourd'hui des goûts de luxe au masculin à l'occasion des salons de l'homme et belles montres qui se tiennent ce week-end au Carrousel du Louvre à Paris. Nous sommes en compagnie de Jérôme Bernis, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur du Salon de l'Homme, donc associé désormais au Salon Belle Montre. Nous sommes également en compagnie de Mickaël Bruegler, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur et dirigeant de la maison horlogère Bruegler. Nous sommes également en compagnie de Lorenzo Schifonelli, bonjour.
Bonjour.
Dirigeant du tailleur Schifonelli à Paris. Grégory Moreau également est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Valgrin, fabricant de putter de golf. On commence à comprendre déjà l'univers qui se joue au Salon de l'Homme. Jérôme Bernis, effectivement le Salon de l'Homme existe depuis l'année dernière. Là vous êtes regroupé avec le Salon Belmont parce que c'est ce qui manquait finalement à tout ça. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce Salon de l'Homme?
Le Salon de l'Homme avait pour objectif et a pour objectif de réunir dans un seul lieu et même endroit l'ensemble des univers masculins, le meilleur de l'ensemble des univers masculins pour l'homme, ce client un peu, ce consommateur un peu particulier qui aujourd'hui sait ce qu'il veut et a pas la même mode de consommation que les femmes. On va dire que l'homme aime moins faire du shopping pour faire du shopping et en même temps aujourd'hui est un gros consommateur.
Et donc l'idée, c'est qu'on regroupe tout au même endroit, comme ça on est sûr que...
On fait un pop-up store éphémère, on crée un événement plus qu'un salon dans le côté un peu ennuyeux que peut avoir le terme salon. On fait plutôt un événement où on va rassembler le meilleur de tous les univers, de la high-tech à la mode, à l'horlogerie aujourd'hui, au sport évidemment, en passant par l'automobile, l'art de vivre et les accessoires. On événementialise tout ça pour créer justement pendant 3 jours je me répète beaucoup.
Avec les hommes, vous toujours me répétez plusieurs fois. Non, mais simplement, vous avez dit qu'il avait évolué, ce consommateur masculin. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu plusieurs tentatives de salons dédiés à l'univers masculin. Ils ont tous capoté. Là, vous êtes en deuxième année. Donc, c'est déjà une manière de succès puisque vous reconduisez l'affaire. C'est vrai que si on estime la réussite d'un salon à son nombre d'exposants, je crois qu'entre cette année et l'an passé, vous maintenez, voire augmentez augmenter le nombre de participants, d'acteurs. Quand vous dites que c'est un consommateur un peu différent de la femme, il fait pas du shopping pour le shopping, ça veut dire quoi? C'est que l'homme, quand il fait du shopping, faut que la pièce soit incarnée, que cette, elle soit une manière d'investissement, faut que ça s'inscrive dans la durée, il aime pas l'éphémère.
Il va aller chercher, aujourd'hui, l'homme est très informé de ce qu'il peut trouver sur le marché et il va aller chercher un produit spécifique. Quand il fait du golf, par exemple, on prend Monsieur
Grégory
de la société Valgrin, pour Valgrin, qui crée des putters sur mesure. Ça veut dire qu'on va aller s'adresser à un passionné de golf, mais qui en même temps va aller chercher quelque chose pour lui. C'est pas une question d'être le champion olympique de golf, c'est une question d'avoir quelque chose pour soi qui correspond à ses attentes, à ses valeurs, à son niveau aussi.
D'ailleurs, c'est ça. On voit qu'autour de la table aujourd'hui, on est quand même autour de la personnalisation, du sur-mesure, du très haut de gamme. Et c'est aussi ce que vous voulez présenter. Lorenzo Cipollini, vous y étiez vous l'année dernière?
Oui, j'ai fait la première année, oui. Ah. Et je reconduis.
Et vous reconduisez, c'est que ça s'est pas trop mal passé.
Oui, j'étais
j'imagine.
Très content.
Alors que vous, en plus, contrairement à d'autres, vous avez des boutiques sur Paris, oui. Donc un point de vente sur Paris. Donc quel est l'intérêt pour vous justement? Est-ce que l'approche de l'homme est différente?
Non, mais ça me permet de rencontrer d'autres clients potentiels, des gens qui viennent peut-être ne sont pas intéressés par le costume, mais qui viennent voir, qui ne connaissent pas la marque. Et donc, des gens qui sont intéressés par l'artisanat, par le luxe. Et donc, voilà. Donc, la première année, j'ai rencontré beaucoup de gens qui éventuellement ne connaissaient pas Cipollini.
Tu étais venu pour acheter des putters, mais par la transversalité et les jeux dans le salon, ils se sont dit, finalement,
j'aurais peut-être besoin de ça. Je ne sais pas cette marque, voilà, donc je m'intéresse. Ils sont venus, après, ils sont revenus nous voir dans nos ateliers au rue Marbeuf. Et voilà, donc ça m'a permis de créer un lien et ce salon nous a permis de créer un lien intéressant.
Au départ, ils se seraient peut-être dit, en passant devant les ateliers, c'est pas forcément pour moi.
Exactement.
Et là, dans un autre contexte.
Et voilà, en fait, les gens ont un peu peur de monter au premier étage. On est un salon, on est là depuis 1880, c'est à Rome, puis 1926.
On va revenir à
1926 à Paris. Et en fait, voilà, les gens ont un peu peur de rentrer. On sait pas, le tailleur, est-ce que c'est un peu vieux, est-ce que c'est moderne ou pas. Donc ils voient, moi j'ai 46 ans, mon cousin à qui je dirige la société a 45 ans, on fait des choses modernes, donc voilà, donc ils sont intéressés et après ils viennent nous voir dans nos ateliers, ils viennent découvrir notre univers.
C'est donc, ça aussi Jérôme, voilà. L'idée d'un salon, parce qu'au départ l'action, un salon de l'homme, c'est pas très bien pourquoi, puis on commence à comprendre parce que c'est le salon des passions masculines, mais souvent les hommes, on a le sentiment qu'ils sont très monocentrés, c'est-à-dire ils ont une passion. Pour les uns, c'est la mode et ça restera la mode. Pour d'autres, c'est l'automobile, ça reste l'automobile. Mais ils ont du mal à croiser les jeux comme ça. Et soudain, en réunissant tous ces univers, ils disent j'aime la mode, mais je peux aussi aimer l'automobile. Finalement, une belle montre, c'est pas mal non plus. Tiens, un putter, je me mettrais bien au golf. C'est ça l'intérêt d'un salon.
C'est de jouer la transversalité, c'est de partir sur la curiosité, le partage. Et on s'aperçoit que le passionné d'automobile va être éventuellement passionné d'horlogerie aussi.
Oui, souvent, il y a des liaisons.
Mais on va s'apercevoir qu'il aime les costumes aussi. Et en fait, c'est drôle parce que l'année dernière, en rencontrant près d'une centaine d'exposants, on s'aperçoit que tous, directement ou indirectement, ont un lien et des connexions entre eux. Et que le passionné de sport, lui est copain avec le passionné d'automobile qui est passionné.
Ça crée un grand club, quoi.
Et ça crée une espèce de grand club où, à la fin, tous les exposants, entre eux aussi, échangent leurs passions. Et on s'aperçoit que la passion nourrit la passion.
Alors on peut pas citer tout le monde, mais il y a aussi des gens comme Clarins, comme des Dream Yacht Charter de Vialet, donc d'autres univers, l'univers comme Frappin, Graciane Bascan.
Frappin, c'est les cognacs, ça.
Voilà, Toys Club, Liquides Imaginaires, on est dans le parfum, donc on a vraiment un tas d'univers. Et puis cette année, vous avez aussi un partenaire de choix, c'est Mr Porter.
Ouais.
Qui a même un espace à lui, un petit lounge, et qui fait partie aussi de l'animation.
Mr Porter, c'est le pendant féminin du site Net-à-Porter, qui est le leader mondial du site internet haut de gamme, la destination haut de gamme sur internet, et qui eux s'apercevaient qu'ils avaient besoin de s'ancrer dans le réel, que être internet c'est génial, autant faut-il quand même être connu,
incarné,
et donc avoir un pied dans le réel en montrant l'ensemble de la diversité des passions masculines dans un univers incarné sur le marché français, que le Salon de l'Homme et des Belles Montres leur paraissaient l'endroit idéal pour le faire. Et nous, d'un autre côté, ça nous paraissait évident qu'à partir du moment où on arrive à faire se déplacer près de 20 000 personnes en 3 jours pour venir découvrir tous ces univers, de pouvoir offrir à ces consommateurs et ces clients futurs toute l'année de retrouver les marques qu'ils vont découvrir sur le salon sur un site comme Mr Porter, ça paraissait aussi une évidence et la boucle est bouclée. Aujourd'hui, Internet a besoin d'un pied dans la réalité et...
Un win-win, comme on dit, exactement. En bon français. Juste deux questions. La première, enfin, une remarque d'abord. Je suis désolé, Jérôme. Le golf, c'est pas un sport olympique. Mais ça, c'est pour vous dire. Ah, mais pour l'instant, ça n'est pas. Mais c'est pas grave, c'était c'est juste pour sortir ma source. C'était pas ça la question. Juste un bon salon, c'est, comme vous l'avez dit, une éditorialisation de la chose et puis une sélection aussi de chacun des acteurs. On va revenir avec trois de nos invités. Mais comment vous les sélectionnez? Est-ce qu'il y a une espèce de parrainage? À partir de quel moment on a le droit d'investir le salon de l'homme? Faut qu'on soit une marque référente, haut de gamme, de qualité, savoir-faire. Comment vous sélectionnez?
C'est drôle parce que ça rejoint la question du club. C'est qu'à partir du moment où on va en sélectionner des marques qui sont autour de nous et qu'on va connaître, ça va fonctionner un peu par cooptation. Un passionné va nous dire, moi je connais, j'ai la chance de connaître la maison Schifonelli et Lorenzo depuis des années maintenant, donc à partir du moment où on voit Lorenzo, on se dit, ah ben il me dit, mais et au niveau des chaussures, tu es qui? Et hop, et ainsi de suite, les choses se font et on rencontre les gens et ensuite ça se passe en bonne intelligence, j'allais dire.
Et d'ailleurs, par exemple, autour de cette table, on a une maison qui date de 1880, une maison qui date de 2012 et une maison qui date de 2015.
Oui, voilà.
C'est ça, vous êtes tout récent.
Honneur aux anciens.
Honneur aux anciens, on commence par...
Schifonelli. C'est l'hérite de durée.
Rue Marbeuf depuis 1936, mais en revanche, on disait depuis 1880, c'est une quarantaine d'artisans qui travaillent d'abord le costume.
Le costume, les tailleurs aussi pour femmes, et le manteau, toutes les pièces qu'on peut réaliser sur mesure pour hommes et femmes, bien sûr.
Donc, et vous disiez, il faut passer la porte parce que c'est derrière que ça se passe.
Oui, et puis ça, on peut en être en étage, donc ça fait un peu peur. Puis parfois, on peut avoir l'image du tailleur un peu poussiéreuse, donc on essaye avec mon cousin de dépoussiérer tout ça. Et on voyage beaucoup, on s'est passé énormément à New York, à Londres, à Tokyo, à Moscou. Et puis les gens viennent nous voir dans un atelier, ils viennent voir comment sont fabriqués les costumes. Il n'y a pas de tricherie, les gens sont derrière avec nous. Moi, je suis tailleur, mon cousin est tailleur aussi, donc on fait.
Car vous, on vous met une pièce de tissu et un ciseau, vous savez tailler.
Ah, c'est moi qui taille. C'est moi qui avec mon cousin, on est deux. On taille à deux, on fait les essayages. Donc on est vraiment on est des directeurs, mais on est au sein de.
Vous mettez la main à la pâte.
Ah, complètement.
Alors juste tout de même. Dites, c'est une maison qui a une sacrée histoire dans l'imaginaire des hommes, même s'ils ne connaissent pas, même s'ils n'ont pas porté Schifonelli, ça résonne.
J'espère.
Un peu j'étais une fois, vous êtes dit, parce que pour les gens aussi, c'est italien. C'est quoi l'histoire de Schifonelli? Comment ils arrivent à Paris?
C'est mon arrière-grand-père qui commence en 1880 à Rome, et puis après mon grand-père qui vient en 1926 à Paris, et en 1936 rue Marbeuf, où encore les ateliers se trouvent aujourd'hui. Mon frère qui, dans les années 70, prend la relève. Et aujourd'hui, avec mon cousin Massimo, nous dirigeons la société depuis une quinzaine d'années. Et nous développons la société. Le marché du sur-mesure se porte très bien. On se le passe beaucoup dans le monde entier. Les gens sont vraiment... Il y a un vrai retour sur le sur-mesure, sur la qualité, sur l'artisanat, sur le savoir-faire. Il faut 80 heures pour faire un costume.
Mais là, il y a toute la transparence.
On ne ment pas, en fait.
Et s'il était besoin de le prouver encore, comme référence, vous avez les plus grands hommes politiques français parmi vos clients. Vous avez travaillé pour la maison Hermès.
Oui, mais nous, on ne cite jamais nos clients.
Mais je sais que vous ne citez pas, c'est pour ça que c'est moi qui le cite.
On habille des designers, on habille des hommes politiques, on habille des industriels, mais en fait, tout le monde, chez Chivoli, tout le monde paye. Donc voilà, je ne fais pas de publicité, parce que les gens payent leurs costumes, donc je n'en profite pas. Et voilà, j'ai une politique différente des autres maisons qui offrent gratuitement des costumes.
Bon, Schifonelli, vous le dites, c'est d'abord... L'art du tailleur, l'art du sur-mesure. Mais est-ce qu'il y a quand même des pièces un peu iconiques, des costumes qu'on peut se faire sur-mesure? Mais vous dites, ça c'est vraiment le costume Schifonelli. Et puis notamment, je crois qu'il y a une certaine cravate aussi qui est
Il y a beaucoup de pièces, en fait, on crée des modèles avec mon cousin, des vestes sport, on utilise des matières aussi différentes, du yak, on peut venir du Tibet, on travaille sur les matières, on travaille sur les formes. Donc il y a vraiment, vous allez voir sur notre site internet, il y a beaucoup de choses, des modèles différents. Après aussi, on se développe en prêt-à-porter. Aujourd'hui, on a une boutique.
C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Alors justement, on va faire une petite pause parce que c'est ça la nouveauté et aussi l'actualité de la maison Schifonelli, c'est le prêt-à-porter. Et là, il y a le début d'une nouvelle histoire, finalement. Oui. On fait une petite pause.
Vas-y, remarquez, Lorenzo, il tape sur la table comme s'il était en train de tailler le costume. Ça, c'est comme ça, les tailleurs.
Tirer les ciseaux,
il ne peut pas s'en empêcher.
Ça ne rigole pas. On fait une petite pause sur BFM Business. On se retrouve juste après pour votre luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et à l'occasion des Salons de l'Homme et Belmont qui se tiennent ce week-end au Carrousel du Louvre à Paris, des goûts de luxe qui se conjuguent au masculin pluriel. Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Dernis, cofondateur du Salon de l'Homme, associé désormais au Salon Belmont, de Michael Brugler, dirigeant de la maison horlogère Brugler, de Lorenzo Schifonelli, dirigeant du tailleur Schifonelli, et de Grégory Moreau, fondateur de Valgreen. Ce sont des putters de golf. Alors justement, Grégory Moreau, on parlait du savoir-faire sur mesure juste avant la pause de Schifonelli. Mais finalement, quand on fait des putters de golf comme vous, où il a fallu à peu près 3 ans de recherche et développement pour développer la chose et pour proposer des putters différents en 2012, on est là aussi sur du haut savoir-faire. D'ailleurs, vous avez le label entreprise du patrimoine vivant quand même.
Oui.
J'imagine que dans le golf, il n'y en a pas beaucoup.
On est les seuls.
Pour une entreprise toute récente.
Oui.
C'est quoi ? Quelle est la différence ?
Bah,
Qu'est-ce qui fait la valeur ?
C'est la folie de la recherche de l'excellence, du sur-mesure, de la passion, d'un résultat optimal, qui peut être un amour individuel des artisans qui travaillent sur les pièces, mais aussi perçu par l'utilisateur. Donc au niveau d'un design, au niveau des matières exceptionnelles, au niveau des finitions, puis surtout sur la personnalisation. Donc on rentre à la fois sur une personnalisation technique comme esthétique.
Alors, on va revenir sur tout ça, Grégory, mais j'ai joué le novice. D'ailleurs, comme vous, juste avant la pause, vous m'avez tous les deux massacré, Jérôme et Grégory, j'ai voulu jouer au plus malin en disant que le golf n'était pas un sport olympique, vous m'avez dit qu'il allait le devenir, donc je me tais et je reste un novice. Pourquoi avoir choisi simplement les putters ? C'est-à-dire que quand on joue au golf, il y a le putter bien sûr, je crois que c'est l'instrument et le club qu'on utilise au moment du green, mais il y a tous les bois. Pourquoi vous n'êtes pas allé là-dessus ? Est-ce qu'il y a un savoir-faire bien particulier sur le putter qui interdit ou qui se dit... Ça suffit en soi, le putter, on ne va pas travailler les bois tout de suite.
Il y a une volonté d'aller sur... je suis un petit peu issu de la technologie, des sciences, et pour moi, le club le plus important, c'est celui qu'on utilise le plus. Et un putter est utilisé 50% du temps sur un terrain de golf.
D'accord.
Donc on a 14 clubs, tous différents, et on a un seul putter. Et pour moi, c'était l'objectif de vraiment pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de se différencier, d'apporter de l'élégance, du savoir-être... on va dire dans le sport des rois, quoi.
Mais qu'est-ce qui change ? Est-ce que vous parlez d'esthétique depuis tout à l'heure, de matériaux, même peut-être aux novices que nous sommes, vous pourriez expliquer, c'est un design aussi différent ?
Oui, on a travaillé sur la biomécanique, sur la posture, sur le mouvement, on a travaillé sur le sensoriel, donc la capacité de l'utilisateur à ressentir les choses, qui pour moi apporte du plaisir et apporte aussi de la performance. Donc c'est aider l'utilisateur, quand il le perçoit, à dire « waouh, c'est beau, c'est le mien, il est unique ». Et après, lui donner la possibilité, d'autant plus, de se faire plaisir, parce qu'il y a du rendement, c'est adapté.
Voilà,
s'adapter.
Ce que vous dites, finalement, un putter, il y a bien sûr ce qui fait l'éloge du sur-mesure, c'est la personnalisation, ça c'est bien, c'est délicat, c'est difficile. Ouais. Mais un putter, c'est éminemment technologique. Ouais. C'est une arme de haute précision, c'est là où véritablement le golfeur va marquer les points. Ouais. En quoi vous apportez avec vos putters sur-mesure aussi, comme vous le dites, une efficience, une optimisation du rendement? Donc, ils sont plus performants que les autres putters sur le marché, avec eux on est à peu près sûr de faire bogle, je sais pas quoi, là, j'ai oublié.
Donc l'idée c'est en fait d'adapter le putter à l'utilisateur. Donc avoir un outil adapté, c'est comme un tireur d'élite avec un fusil. Si je lui règle le fusil en fonction de lui, il aura une répétabilité à utiliser ce fusil de la même manière. Donc le
bien
putter
sûr,
c'est la même chose. Après, ce qu'il peut apporter, c'est la technologie, l'innovation. On a déposé 6 brevets. Donc on a des putters qui sont tolérants, qui sont performants, mais surtout qui sont faciles à jouer. Donc on a travaillé pour avoir un putter de golf qui soit en adaptation avec ma masse musculaire, qui soit en adaptation avec ma vue, qui soit en adaptation avec mon sens du toucher, avec le sens de l'équilibre. Et là, on le mixe avec Louis. Donc c'est un mix de solutions.
Avec Louis ?
Louis, oui. La notion d'équilibre et de toucher... Et en fonction de notre oreille interne.
D'accord.
C'est hyper compliqué.
Et non, ça me paraît clair. Mais justement, ce qui est intéressant dans le monde du sur-mesure, alors c'est pas Lorenzo qui va me contredire, vous le disiez tout à l'heure, quand on vient se faire tailler un costume, c'est combien d'heures de travail et combien
80 heures.
Et combien de prises de mesure sur un costume?
Une vingtaine
de prises de mesure, donc plusieurs heures de travail.
Pour le putter
Valgreen. Lorsqu'on vient se faire tailler un putter sur mesure, est-ce qu'on teste comme ça? Vous nous faites passer sur un putting green pour qu'on... Comment ça se passe?
On va passer du temps ensemble, on va écouter déjà, on va observer l'utilisateur, le futur utilisateur. Après, on va écouter ses demandes, on va le conseiller. Puis après, on
avec
va
beaucoup de diplomatie.
Voilà, on va le construire ensemble. Et puis après, nous, c'est entre 14 et 22 maîtres artisans différents pour fabriquer la pièce. Et ça va être entre un mois et demi, 2 mois pour le plus rapide, à 4 mois et demi de travail.
Au Salon de l'Homme, ce week-end, on peut faire des tests comme
oui,
ça
oui, oui. Donc, on a amené quelques pièces.
Alors, on verra aussi, justement, les pièces que vous présentez au Salon de l'Homme. Et puisqu'on est sur le sur-mesure, puisqu'on est sur la personnalisation, ça nous emmène à la Maison Bruegler. Là aussi, j'ai envie presque vous traiter de doudingue. Pardon, Michael Bruegler, mais comme Valgrin, finalement. Ou lancer dans l'horlogerie. Alors déjà, ça bouge pas mal dans l'horlogerie. Mais en plus, vous dites, regardez, moi, à l'heure où les autres font des montres connectées, moi, je vous propose une montre complètement personnalisable, sur mesure, à prix abordable.
Oui.
C'est ça l'histoire ?
Oui, alors ça c'est l'idée, je crois, le luxe doit être inutile, sinon c'est pas du luxe. Plus c'est inutile, plus c'est beau, plus c'est du luxe. Alors moi je crois qu'une montre à ce temps-là doit être belle, une haute qualité. Et si c'est personnalisé, c'est encore un petit plus qui fait vraiment l'exceptionnel. Et c'est pour cette raison. Ma femme, il faut bien dire, avait l'idée de fonder cette société.
C'est elle qu'on aurait dû inviter.
Voilà, elle veut toujours que je mentionne ça.
Elle a raison.
Elle distingue bien entre
Salon de l'Homme et
la bonne idée. Et puis alors, il a l'exécution. Elle dit, Michael, alors, c'est difficile d'avoir une bonne idée. Alors l'exécution, c'est très facile. Alors.
Michael, alors, exécute, voilà mon idée. On a compris que c'était l'idée de votre femme.
Voilà. Lancement en juin dernier. Et alors, quand on dit personnalisation sur mesure, c'est pas juste, on change de bracelet. On est bien d'accord.
Non, c'est hyper compliqué, c'est clair. Faire un objet de luxe sur mesure, c'est vraiment le graal du luxe, comme on était cité dans le journal parisien. C'est le plus compliqué qu'on peut faire, parce qu'on doit vraiment répondre à des besoins individuels d'une personne. Alors, c'est loin de la production industrielle en série, c'est loin de tout cela. Alors, pour nous, c'était clair que ça... Tout va dans cette direction. Il faut personnaliser. C'est la chose que les gens cherchent. Ils cherchent
pas. L'hyper personnalisation.
Qu'est-ce qu'on peut choisir alors?
On peut choisir quasiment tout. Même le mouvement, on peut choisir entre un mouvement mécanique, quartz. On peut choisir entre 27 couleurs de 4 ans, même à l'intérieur. Pour ça, on a choisi aussi un chronomètre qu'on peut distinguer entre 3 couleurs dans les cadrans. On peut choisir la boîte acier ou DLC.
Les aiguilles, la couleur des aiguilles.
Voilà, le 27 couleurs aussi dans les aiguilles. Même la masse fluorescente que vous voyez dans la nuit, si vous regardez.
la dosée.
Vous pouvez voir tout ça dans la nuit.
Voilà.
Du coup, tout ça se prépare sur Internet, parce que vous êtes une marque éminemment moderne, Michael Bruegler. Donc, on fait toute notre petite préparation sur Internet.
En fait, on était un petit peu déçus de l'Internet. Les gens, ils ont besoin un peu des conseils, soit techniques ou soit avec le choix de leurs produits, des couleurs. Ils cherchent un peu les conseils des professionnels. C'est pour ça qu'on s'associe aussi avec des magasins de montres, ou comme à Paris, on a un centre de biens, le centre Delacre, qui distribue nos montres.
Oui, voilà. De bien-être.
Exactement.
Et c'est là qu'on trouve votre montre.
C'est exactement là, voilà.
Alors, parce que c'est du côté du bien-être.
C'est exactement ça. L'homme cherche le plaisir, le bien-être, et c'est là où il faut être, si c'est sur le polo ou sur une piste de racing.
Vous avez
racing.
Raison, il y a moins de concurrence, hein, voilà. Sur tout.
Exactement.
On va y aller, Michael. Moi, j'arrive donc du côté de l'Institut Marc Delacre, qui doit être du côté des Champs-Élysées. Je ne sais plus si c'est avenue Georges V ou si je suis tapé sur Internet. J'arrive, on va me couper les cheveux, il faut que j'y aille. D'ailleurs, en ce moment, ils poussent un peu trop vite. Peut-être que je me fais une manicure, ça jamais. Mais bon, comment ça se passe si je décide de faire ma montre, ce fameux dialogue? Comment ça se passe? J'arrive, vous me présentez quoi?
Justement, il est presque pas c'est un monologue de Marc Delacre, parce que vous ne pouvez pas échapper. Si une fois il a coupé la moitié de vos cheveux, vous ne pouvez pas échapper à ses explications. Comment faire la montre. Lui, il peut vous conseiller. Vous voyez la montre. Il a des gens aussi qui peuvent vous conseiller. Et après, on peut aussi nous contacter. Nous, on est des rares maisons où aussi les fondateurs sont encore vivants. Alors, on est en contact direct aussi.
Très rapide, très capillaire.
Exactement. Alors,
pardon de vous couper, mais est-ce que, comme Lorenzo Schifoni, vous mettez la main à la pâte?
Oui, on fait tout. Alors, c'est moi qui ai fait, par exemple, le design. J'étais à l'école pour apprendre le logiciel en 3D. Alors, c'est moi qui a fait le design. C'est moi qui a trouvé aussi tous les fournisseurs qui nous fournissent en Jura pendant 2 années. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Parce que, bien sûr, on n'a pas dit, mais on l'entend à votre accent, tout ça, c'est fabriqué dans le Jura suisse.
Oui, moi je suis de Zurich, alors de la côté suisse-allemand même.
Mais j'ai l'impression, le sentiment que ces montres, elles jouent beaucoup sur le côté couleur. On connaissait les chronographes, va bientôt falloir inventer avec vous les chromographes. On est vraiment dans le pantonnier. C'est d'abord ça, la personnalisation chez vous? Voilà. C'est d'abord le sens de la couleur?
C'est exactement. Nous, on a pensé, vous voyez beaucoup de montres avec beaucoup de complications. Ou quelqu'un a étudié une complication de montre. Finalement, il a réalisé ces complications pendant 4 années. Ça coûte 500 000. Ça fait beaucoup plaisir à la personne qui a fait cette montre. Mais nous, on a dit non. Il faut aussi quand même mettre le client au centre, que lui, il peut dire ce que lui plaît. Alors, il peut être chez nous créatif, faire son choix de techniquement ou aussi de couleur et trouver vraiment son bonheur personnel.
4 à 8000 euros, 6 semaines de délai environ, on est toujours là-dessus. Je vous donne pas le nombre de combinaisons possibles parce que ça se compte même plus. Jérôme Dernis, c'est intéressant aussi que effectivement à voir avec ces différents exemples que nous avons là au Salon de l'Homme et Salon Belmonde qui se tient ce week-end au Carrousel du Louvre à Paris, c'est qu'on a aussi des jeunes pousses, ça peut être aussi un tremplin pour des marques qui se lancent.
Bien sûr. C'est ce qui a été intéressant et passionnant, c'est de rencontrer tous ces créateurs et tous ces créateurs d'entreprises qui ont envie de lancer des produits et de dire qu'il y a encore de l'envie et qu'il se passe des choses en France et que malgré les horreurs dans lesquelles on peut vivre en ce moment, il y a toujours la volonté d'entreprendre, la volonté de faire, la volonté d'échanger, la volonté de rencontrer.
Et de faire des belles choses, de beaux produits aussi. C'est ça. Alors, justement, on revient à vous, Lorenzo. On s'est arrêté tout à l'heure. Le lancement du prêt-à-porter avec une nouvelle boutique.
Tout à fait, oui.
Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on garde du sur-mesure de Chiffonelli quand on lance le prêt-à-porter?
Mais justement, on essaie de garder l'esprit et l'identité de la marque et... Donc on a ouvert une boutique au Faubourg Saint-Honoré aujourd'hui et on fait une vraie collection, on fait partie de la Fashion Week, la Men Fashion Week.
On
défile. On est présent à New York, chez Barney's et chez Zetan aussi à Tokyo. Donc voilà, donc on essaie de garder l'identité de la marque et l'image. On a travaillé énormément avec mon cousin sur la création des modèles, sur la collection prêt-à-porter, du sportswear, tout ça.
Donc vous avez embauché un directeur de style aussi.
Exactement, un Américain qui était un ancien client de la maison, qui s'appelle John Vidzon, qui était un ancien de chez Ralph Lauren, qui a travaillé pendant 25 ans chez Ralph Lauren et qui vient nous aider à développer la marque et d'ouvrir la première boutique à Paris, puis d'autres vont apparaître à Londres et New York.
Ça y est, c'est une nouvelle page qui se tourne quand même, Chiffonelli.
Oui, mais alors pour être passé quand même dans la boutique, effectivement, on n'est pas dans le sur-mesure, c'est une autre histoire. En revanche, ce qu'on garde de Chiffonelli, c'est la qualité des matières.
La matière, les coupes aussi,
et
du travail.
C'est quand même deux axes qui font la quintessence d'un grand tailleur, qui ont fait la réputation de Chiffonelli. Et là, vous êtes sûr, sur des modèles qui sont quand même des modèles de prêt-à-porter, vous ne serez pas dans le sur-mesure pur et dur.
Non.
Mais il y a deux gages. Moi, j'ai trouvé la coupe sûrement, mais la matière. Là, il y a une qualité de matière qui fait que ça inscrit quand même la marque dans son essentiel.
Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, donc on essaie de se différencier. Et nous, la qualité, vraiment, est notre maître mot. La passion et la qualité, le travail. Les gens viennent chez nous par passion. C'est des passionnés, en fait. Voilà, vous me disiez qui vient chez vous. Ce sont les passionnés. On n'a pas de griffe. Là, on a le nom du client à l'intérieur de la poche, c'est tout.
Donc, sur le prêt-à-porter?
Le prêt-à-porter, si, forcément, mais pas sur le sur-mesure. Donc les gens viennent chez nous par passion. Et j'espère que pour le prêt-à-porter, ce sera la même chose. Donc ça commence. Elle vient d'ouvrir.
Chez Valgreen, qu'est-ce qu'on peut voir parmi les nouveautés sur le Salon de l'Homme? Qu'est-ce que vous proposez comme putter? Est-ce que c'est l'Apollon? Est-ce que c'est le Phoenix? Est-ce que c'est le Valgreen que vous avez développé avec Estée Dupont? Parce que c'est ça, finalement, vous êtes dans les mêmes univers.
Oui, on a quelques partenaires de prestige. Qui seront aussi labellisés EPV. Et en fait, on a deux axes, deux gammes, une gamme prestige et une gamme sport. Et on va présenter donc en France, au Carrousel, et c'est ce qu'on présente, la gamme sport. On va pouvoir découvrir deux nouvelles pièces qui sont fabriquées toujours avec autant de volonté de perfection, mais avec une possibilité de tarif plus accessible.
Parce que là, on n'aura pas la poterie, la finition poterie.
On n'aura pas de veau foulonné, ni de couture au fil de lin, on n'aura pas de visserie
en or. C'est votre prêt-à-porter, quoi.
C'est ça.
C'est votre prêt-à-porter, vous
prêt
vous dites sport, mais c'est un petit peu prêt à jouer. Voilà que l'on retrouve. À partir de combien on peut se payer du coup un putter
Valgreen? 950 euros.
Ah bah voilà. Merci beaucoup, messieurs. Le mot de la fin?
Non, le mot de la fin, je ne sais pas. Peut-être à Jérôme. On a eu le sentiment avec nos invités, pas seulement quand on regarde la liste de tous les participants au Salon Belmonte, également au Salon de l'Homme, qu'il y a quand même cette ligne de fuite désormais du sur-mesure, de la personnalisation, de la customisation, de l'incarnation de plus en plus de l'objet qui doit être aussi approprié par le consommateur de manière très personnelle.
Mais en même temps, comme disaient nos trois invités, il y a à la fois le sur-mesure qui est un
Un Graal.
Un Graal, et en même temps, toutes ces maisons font aussi d'emmener vers des lignes qui soient, en respectant l'ADN de leur maison, de faire de la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'objectif n'est pas de s'adresser uniquement à une ultra-minorité, mais d'essayer de partager ces valeurs pour aller chercher des passionnés, quel que soit leur niveau de fortune. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Il y a quand même une certaine forme de démocratisation de ce luxe-là, dans la personnalisation.
Sans oublier la qualité, c'était impeccable comme mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Jérôme
Monsieur
Merlet.
Monsieur les hommes,
le salon de l'homme et Belmondre. C'est donc jusqu'à dimanche soir au Carrousel du Louvre à Paris. Et sinon, vous pouvez retrouver bien sûr la maison horlogère Bruegler. Donc on a dit à Paris au salon de l'Arc.
Institut
Marc de l'Arc. Merci à vous, Michel Bruegler. Grégory Moreau, Valgré, on trouve où à Paris?
Vendôme, chez Tournaire. Et pour les golfeurs, chez Wally.
Et parfait. Et Lorenzo Sifonelli, on redonne donc le sur-mesure rue Marbeuf et le prêt-à-porter
Faubourg Saint-Honoré.
Merci infiniment à tous les quatre.
Il n'y a pas de salon de la femme la semaine prochaine. Hein.
Désolé. Hein.
Ouais, oui. Pas tout grave. À voir, vous avez déjà tout.
Bon, allez, ça suffit l'agenda.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans un tout petit instant, dans Goût de Luxe, c'est le traditionnel agenda. Mais pour l'heure, le livre de la semaine qui vous emmène en voyage. Le livre de la semaine vous emmène voyager autour des cartes. En fait, ce sont des voyages immobiles.
J'adore.
Que vous propose Francesca Matteoli, édition Duchesne. Ça s'appelle Map Story, histoire de cartes, tout simplement. Francesca Matteoli, on a souvent parlé de ses ouvrages. C'est une grande voyageuse, c'est une écrivain voyageuse.
En fait, une globe-trotteuse. Dans le plus gros sens du terme.
Voilà, elle a traversé le monde. Et alors là, elle a fait un travail inverse. Elle s'est inspirée de cartes anciennes, bien sûr, parce que c'est là que c'est marrant aussi.
Elles sont belles.
De très belles cartes. Et à partir des cartes, elle a raconté la découverte de ces lieux. Alors que ce soit, ça commence par des cités perdues comme Petra, le trésor des barbares. Elle passe par la Nationale 7. Elle passe par des routes comme le Far West. Elle passe par le Loch Ness. Elle passe par des mondes de glace comme l'Alaska. De trains aussi, l'Orient Express, etc., etc. Donc, elle part véritablement d'un lieu. Je vous prends le sentier des Appalaches, par exemple.
Alors, et donc, on est aux États-Unis.
Vous avez absolument des cartes magnifiques et elle vous raconte la véritable histoire ou une histoire autour de cette carte, de la découverte de ce lieu. Elle revient aussi beaucoup sur ses origines, alors évidemment sur le Chili, la carte du Chili. Donc si on continue notre petite balade dans les Appalaches.
C'est une sorte d'apologie de la cartographie.
C'est étonnant parce que c'est une sorte d'atlas à l'ancienne qui vous raconte ses histoires. Donc la Nationale 7, elle va raconter l'histoire de la Nationale 7, mais ses souvenirs qui sont liés, etc., etc. Et on va vraiment dans des endroits aussi improbable que connu.
Ouais, mais en le feuilletant, je trouve ceci une anthologie de cet objet qui est la carte, un objet inspiré, mais aussi qui est presque une petite œuvre d'art parfois. Hein. C'est vrai qu'elles ont évolué au sens de l'histoire, donc graphiquement, en termes d'icônes, en termes de manière. Moi, j'ai trouvé ça très, très réussi. Matteoli, Francesca, c'est vraiment un personnage étonnant. Elle réinvente un petit peu le livre de voyage. On lui devait un bel opus aussi, vous savez, sur les étiquettes qu'on collait sur les malles ou les valises de voyage. Elle a toujours cet angle, ce sens du décalage, et on aime ça. Le voyage, c'est aussi justement le chemin de traverse. Ce sont des livres de voyage de traverse. C'est le meilleur hommage qu'on puisse leur rendre. C'est un très, très bel objet.
Et puis, évidemment, toutes ces cartes, elles parlent à tout le monde qui n'a pas eu ce genre de carte dans sa classe. Voilà, on
ça en nous fait alors, en plus réviser notre géographie.
C'est ça, quelques-unes sont.
Et puis, pour ceux qui n'aiment pas le voyage, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'art du voyage en chambre.
Exactement.
Vous visitez comme ça, sans bouger de chez vous, c'est pas mal non plus.
Ça s'appelle Map Story, histoire de cartes. C'est aux éditions Duchesne et c'est signé Francesca Matteoli. Allez, justement, l'agenda. On va continuer à voyager.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Voyage immobile, là aussi, Emmanuel.
Voyage immobile, mais qui va attirer, à mon avis, beaucoup de gens. Ça commencera le 4 décembre au Grand Palais. L'exposition s'appelle Voler, Voguer, Voyager. C'est une exposition qui raconte la grande saga Vuitton, mais du Maltier Vuitton. Alors, on l'a souvent évoqué à travers des livres, à travers des ouvrages, parfois des petites expositions capsules, notamment du côté d'Anières. Là, c'est la grande odyssée du Maltier Vuitton. Alors, l'exposition promet beaucoup. Je pense que vous en reparlerez dans vos goûts de luxe quotidiens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore la découvrir. Elle est d'abord orchestrée par Olivier Saillard, on ne le présente plus, c'est le grand monsieur, justement, le grand curateur, celui qui scénographie toutes ces grandes expositions.
Galliera,
hein. Il a eu accès à toutes les archives de Vuitton qui sont assez exceptionnelles, archives papier, croquis de dessin, mais aussi à toutes ces pièces. Mais il a voulu véritablement faire un périple, un voyage dans le voyage. Nous raconter comment, en 100 ans, les voyages ont évolué et comment l'art de voyager a évolué à travers ces malles, à travers des malles Vuitton. Elles ne sont pas des gaz incarnés, elles seront toutes scénographiées de manière, je pense, très pétillante. Puis à l'intérieur de toutes ces malles, quand on ouvre une malle, eh bien là, on ouvrira des malles qui, à chaque fois, raconteront ce que l'on y trouvait à l'époque où elles étaient en circulation, j'allais dire. Donc il a fait tout un travail. Il est le patron de Galliera, donc il a accès à des collections de robes, de garde, de vestiaires, de produits aussi de beauté, de petites boîtes, vous savez, de nécessaires à beauté. Il paraît que c'est assez exceptionnel. On ne peut pas en dire plus, j'en parle aujourd'hui, parce que vous en reparlerez certainement, mais surtout, surtout, la billetterie est ouverte. Alors, soit www.grandpalais.fr, soit directement www.louisvuitton.com, parce qu'il va y avoir la queue pour voyager en plein Paris. Elle promet beaucoup.
Voler, voguer, voyager.
Et là, on est dans la grande légitimité de Vuitton, qui, on le rappelle, est d'abord un maletier.
Et pour preuve que Vuitton voyage, sa maison mère, le groupe LVMH, ouvre un nouvel hôtel à Courchevel, le White 1921. Il y avait une version déjà à Saint-Tropez, donc au soleil. Et donc là, après le Cheval Blanc à Courchevel, voici le White 1921, 25 chambres. C'est l'architecte français Villemotte, Jean-Michel Villemotte, qui ouvre ses deuxième établissement, sauna, hammam, tout ce qu'il faut, et des chambres à partir de 300 euros.
D'accord,
la nuit.
Et les restaurants, non? Parce que du côté du Cheval Blanc, on a un grand chef qui est allé
nous,
là, on ne sait pas,
à suivre. Ça va ouvrir, là, juste au mois de décembre. Une adresse parisienne.
Très rapidement, la coupole, on ne présente plus. Elle aura 90 ans dans 2 ans. Simplement la coupole, l'une des plus grandes brasseries du boulevard Montparnasse. Les nourritures sont ce qu'elles sont, plutôt bonhommes, dès qu'elles sont simples, les plateaux de fruits mer, les grillades, faut pas lui en demander plus. Simplement, c'est quand même l'un des plus beaux monuments parisiens. Mais comme tous les monuments, vous le disiez à propos des hôtels, eh bien, parfois ils sont un peu fatigués. La coupole a fermé depuis près de 2 mois, elle vient de réouvrir. Pourquoi? Parce qu'elle a réorchestré un petit peu tous ses espaces. La salle de restaurant, bien sûr, est toujours là, mais le bar a été réinventé toujours dans cette idée de l'art déco. Les espaces aussi du petit déjeuner, puisque c'est une adresse qui est ouverte quasiment dès Potromino jusque tard le soir. Ils ont un petit peu réinventé les espaces, renouvelé la carte, ça la rafraîchit, ça lui fait du bien, elle est repartie, je l'espère, pour 100 ans. Pour le reste, rassurez-vous, la décoration de la coupole, vous savez, les fameux pilastres qui trônent en haut de ces 27 piliers qui ont été décorés par la bohème Montparnasse au moment du jour de l'inauguration sont toujours là, mais ça fait du bien. Et là encore, ça nous permet de rester dans un Paris debout et de préférence dans les bistrots, les bouclards, les restaurants, les grandes tables.
Et allez, justement, pour terminer, les vitrines des grands magasins, avec tout ça, on a oublié, mais oui, c'est bientôt la période des fêtes, et elles sont animées, ça y est, elles sont décorées. Et alors là, je vais citer quand même le printemps pour ses 150 ans. Ils ont encore mis les petits plats dans les grands.
C'est vrai que les dernières, c'était déjà somptueux, mais là, cette année...
Exactement. C'est Philippe Découfflé, le metteur en scène aux commandes. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Il y a quand même des marques qui sont partenaires. Il y a Sonia Riquel, Burberry, Lancôme, Longines, Christian Louboutin et Evian. Mais ça donne un conte inspiré d'un conte de 1911 qui s'appelait, ça ne s'invente pas, La Fée Maude et le Chevalier Printemps. Donc, autour de tout ça, bien sûr, il y a toujours le fameux marionnettiste Maison qui a travaillé pour animer tout ceci. Metteur en scène Philippe Découfflé. Donc ça donne vraiment quelque chose de différent. On rappelle aussi que les voisins s'y mettent aussi. Et puis le comité Montaigne aussi illumine régulièrement. Et là aussi, Christmas Montaigne fête ses 20 ans. Donc voilà.
Du côté de Galerie Lafayette, on est plutôt du côté Star Wars, je crois.
Ouais, voilà. Donc, en tout cas, ces quartiers-là, s'illuminent.
Donc, faut y aller. Justement, je crois qu'il y a un petit devoir, tous, justement, aller cette saison, relécher les vitrines, c'est important. Il faut montrer que Paris bouge, Paris, où n'a pas peur et que ça participe de notre culture. C'est ça aussi qu'on veut parfois abîmer. Et que ce soit de la mode, du luxe, de la tendance, des boutiques, du retail, des restaurants, des boutiques. Faut bouger, faut en profiter. Elle a jamais été aussi belle. Les lumières qu'on veut voir, c'est pas celle des bombes, c'est effectivement des feux d'artifice, des guirlandes, des vitrines. Allez-y, ne les laissez pas tomber. C'est des années, c'est des semaines de travail, c'est des mois de travail. Tout ça peut pas être anéanti par la crétinerie de qui on sait. Non, c'est vraiment trop de travail, trop de beaux volontaires. Que vous ne rentriez, que vous achetiez ou pas, on sait ce que c'est qu'une vitrine. C'est la part du rêve. On est quand même encore dans les bels esprits de Noël. Il n'est pas si mercantile que ça.
Et voilà, Paris reste et restera la capitale de l'art de vivre. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous retrouve la semaine prochaine.
C'est
même
vrai,
heure, même endroit, fidèle au poste sur BFM Business.